Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode des Berceuses occultes. Cette semaine, on s'intéresse au grimoire Le Petit Albert. C'est un grimoire de magie du genre naturel et kabbalistique. C'est un ouvrage qui fait un peu sourire. Disons-le, c'est beaucoup plus soft et sympathique que Le Dragon Rouge, par exemple. On n'y parle pas de magie noire, puis on ne retrouve pas de formule ou de concoction promettant de nuire mortellement à autrui. Puis nuire mortellement à autrui, c'est pas tout à fait sympathique. Par contre, il y a certaines formules qui sont moralement discutables, parce qu'en gros, elles servent à tromper. Bon, je m'explique. On y retrouve entre autres une formule qui permet au vin gâté de retrouver sa fraîcheur en ajoutant des épices. Si le but, c'est de vendre un vieux vin dégueulasse, ben, c'est pas tout à fait honnête, disons-le. C'est un peu la même chose avec la formule qui permet de doubler la quantité de production de poivre en la mélangeant avec d'autres ingrédients. Bref, la pire pratique du livre, c'est certainement celle promettant de rendre un individu impuissant en nouant l'aiguillette. Puis nouer l'aiguillette, c'est pas cool. Le livre est surtout connu par le fait qu'on y explique la fabrication de la fameuse main de gloire, probablement l'élément le plus macabre de l'ouvrage. Sinon, il fait plus figure de livre de recettes ésotériques que de grimoire occulte. Et ça, malgré ce qu'en disait bien l'Église à l'époque, hein? On peut y découvrir toutes sortes de recettes secrètes pour réussir en amour, se prémunir de maladies, pour obtenir la richesse et l'abondance. On y retrouve plein de secrets surprenants. On y découvre également des directives pour fabriquer différents talismans kabbalistiques, ainsi que plusieurs parfums. Bon, c'est des parfums pour attirer les gnomes, mais quand même. Je dirais qu'il s'agit d'un grimoire qui a été rédigé en ciblant un marché de fermiers. Certainement pas l'élite de la société de l'époque. Une bonne partie de ces fameux secrets sont surtout pratiques au quotidien d'une population agricole et paysanne, du genre empêcher les oiseaux de manger les semences, augmenter l'efficacité des récoltes, attraper plus de poissons, fabriquer du savon, faire avancer les chevaux plus vite. Évidemment, pour la plupart, les recettes ont peu d'intérêt par elles-mêmes, je suppose, sauf peut-être de faire sourire. Par contre, leur existence donne une bonne idée des préoccupations de l'époque, qui est quand même assez intéressant historiquement parlant. Il est aussi intéressant de constater qu'on n'arrive pas encore tout à fait à différencier magie, religion et science. De toute évidence, conceptuellement parlant, on n'est pas encore rendu là. On attribue des fondations magiques et ésotériques à des pratiques qui relèvent d'un concept de science élémentaire ou d'une connaissance simple de la vie quotidienne aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, si on fabriquait un piège à mouche avec du vinaigre de cidre et du sucre, c'est pas vraiment la fermentation qui attirait les mouches, mais bien la magie. Ça peut paraître parfois un peu naïf par moment, mais après tout, ça appartient à une autre époque. Parlons un peu de l'auteur. Comme c'est souvent le cas avec les grimoires que j'aborde au podcast, en ce qui concerne l'auteur de l'ouvrage, c'est assez nébuleux. On a essayé de l'attribuer malhonnêtement à Saint-Albert le Grand, Albert de Cologne, pour ses cousins et ses cousines. Comme d'habitude, c'est pour donner de la crédibilité à l'ouvrage, parce que le bon Albert, qui a vécu dans les années 1200, il a quand même laissé une bonne trace dans le domaine scientifique, particulièrement dans la science de la nature. C'était aussi un philosophe, un théologien réputé, bref, c'était pas un nobody. Donc, rien de bien étonnant qu'on a tenté de lui attribuer l'écriture. C'est pas la première fois qu'un manège du genre est tenté dans le domaine des grimoires. L'attribution frauduleuse la plus populaire, c'est certainement celle du roi Salomon, à qui on attribue un bon nombre de textes occultes dont il n'est probablement pas l'auteur. Sinon, il y a aussi celle du pape Honorius III, pour le grimoire du pape Honorius, qui est très peu probable aussi. En ce qui concerne le petit Albert, il n'est pas trop difficile de déceler la bullshit dans tout ça. Dans le livre, on fait référence à plusieurs reprises à Paracelse, un médecin alchimiste né en 1493. De toute évidence, Albert le Grand n'aurait pas pu le connaître, il était mort depuis déjà 200 ans, quand Paracelse est né. Et il y a d'autres mentions qui font qu'en termes de temps, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas lui. L'apparition du livre, sa première édition, daterait du 17e siècle, plus précisément vers les alentours de 1660. C'est un livre qui a connu un succès quand même assez surprenant. Surtout compte tenu du fait qu'il a été distribué principalement clandestinement, à cause de la censure et des restrictions légales sur les publications ésotériques à l'époque. Pour un livre distribué par colportage, c'est un beau succès. La raison en est quand même assez simple, c'est que de toute évidence, le livre s'adresse beaucoup plus à monsieur et madame tout le monde, en comparaison par exemple au Dragon Rouge. Disons que c'est un livre qui propose des solutions à des maux du quotidien. Donc à l'époque, les vendeurs ambulants devaient mettre l'accent sur le côté pratique de l'ouvrage, tout en vantant ses mystères et sa rareté. Parce que j'ai pas de difficulté à croire que pour un paysan, c'était quand même excitant de posséder un livre interdit. Comme j'ai dit plus tôt, la première édition date de 1660. Toutefois, le livre a été très souvent réédité dû à sa popularité. Nouvelles versions illustrées, corrigées, commentées, c'est difficile de savoir exactement combien il y a eu de versions. Il y a aussi également une certaine confusion qui plane entre le petit Albert et le grand Albert. On peut penser que le grand Albert serait une version corrigée avec des ajouts aux textes originaux. Par contre, c'est pas le cas. En fait, il s'agit de deux livres complètement différents. Je compte me pencher sur les secrets admirables du grand Albert dans un prochain épisode. En fait, les deux livres, à l'époque, se vendaient souvent en bundle. On possédait donc le petit et le grand Albert. Pour compliquer un peu plus les choses, le petit Albert peut aussi être confondu avec le livre Le véritable petit Albert de l'auteur québécois Joseph Norbert Duquette, un livre qui a été publié en 1861 et republié en 1881. Il ne s'agit pas, dans ce cas-ci, d'un grimoire, mais bien d'un ouvrage qu'on pourrait encore qualifier de sceptique. Dans Le véritable petit Albert, on parle entre autres de la poule noire, du dragon rouge, du petit Albert. Et puis, les propos sont pas très gentils. En gros, ce qu'on dit, c'est que ces grimoires-là, c'est un gros ramassis de bullshit. Mais d'un autre côté, l'utilisation du nom du petit Albert dans le titre, c'est peut-être un peu opportuniste et ça surfe sur la vague de la popularité des livres occultes. C'est mon avis personnel. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant avec le véritable petit Albert, c'est qu'il a un peu éclairé certaines questions que j'avais alentour des grimoires et leur publication au Québec. Dans un épisode précédent, on a parlé de l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. Et dans l'histoire, on fait la mention d'un grimoire d'alchimie baptisé Les ouvrages d'Albert le Petit. C'est quand même très similaire au Petit Albert. Ça m'a amené à me questionner sur la présence et la disponibilité des grimoires occultes au Québec dans les années 1800. Et le véritable Petit Albert et son auteur ont un peu répondu à ma question. Bon, si on fouille sur le net, on trouve pas grand-chose sur Joseph Norbert Duquette. Par contre, si on fouille un peu les archives nationales, on peut trouver un peu qu'est-ce qu'il a écrit, puis qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Puis là, on peut en apprendre un peu sur l'intérêt autour des grimoires à l'époque. Il y a un article de journaux qui a attiré mon attention dans le journal L'Événement, sorti le 19 mai 1881, justement pour la réédition du livre. Bibliographie. Monsieur Joseph Norbert Duquette vient de publier une seconde édition du véritable Petit Albert, ou Le Trésor du Peuple. La première édition fut publiée il y a déjà 20 ans et obtint un succès immense. Un ouvrage qui est dédié aux ouvriers et aux cultivateurs et destiné à combattre les erreurs pernicieuses répandues parmi le peuple par des livres qui obtiennent malheureusement trop d'encouragement de la part des artisans et des cultivateurs en particulier. Il donne les moyens réels de parvenir à se quérir au moins une honnête aisance. Et ces moyens sont le travail et l'économie. Ce livre contient plus d'une quantité de matières nouvelles qui seront de la plus grande utilité au peuple. Chose en même temps qui est loin de nuire, le style est facile et amusant. Nous souhaitons à la seconde édition de cet ouvrage populaire le même encouragement qu'a reçu la première et même davantage. Bon, présenté comme ça laisse penser que le petit peuple s'intéressait quand même au grimoire, dans le but un peu naïf de s'enrichir facilement. L'auteur du livre était également un éditeur qui a œuvré pour le journal Le Canadien. Il est connu pour avoir édité l'ouvrage Le Miroir des caractères. C'est un petit livre qui sert surtout à faire la promotion des industries de la ville de Québec. Bon, cet aspect-là, on s'en fout un peu, mais en gros, c'est une documentation entrecoupée de publicités de peinture à l'amiante ultra-cancérigène, puis d'autres affaires dans ce style-là. Toutefois, ce qui m'a marqué, c'est justement la préface qui est écrite par Joseph Norbert Duquette. Notre bon monsieur Duquette cite Jacques de Plancy, qui est un auteur connu pour ses ouvrages consacrés à l'occultisme. C'est l'auteur, entre autres, du fameux Dictionnaire infernal. Ça laisse voir un certain intérêt pour l'occulte, à mon avis. Pour finir ma sortie de route au sujet de M. Duquette, j'irai d'un petit extrait du véritable Petit Albert, qui nous donne encore quelques indications sur l'intérêt à l'époque. Cette malheureuse influence du mystérieux, après avoir traversé l'océan, s'est répandue fortement en Amérique. Mais heureusement, au Canada, nous le disons avec un léger orgueil. On est bien loin de vendre par milliers d'exemplaires ce livre trompeur aux habitants de nos campagnes, ainsi que cela se pratique en Europe. Nous croyons au contraire qu'il serait même difficile d'en réunir pour tout le Bas-Canada de 25 à 30 exemplaires, quoique ce livre, néanmoins, soit très recherché. Mais en cela, nous devons féliciter nos libraires franco-canadiens qui se refusent chaque jour à se prêter à ces sortes de spéculations pour le moins perverses et condamnables. Personnellement, je trouve que de 25 à 30, c'est peut-être peu. Si c'était le cas, je vois pas vraiment l'intérêt du véritable Petit Albert. Mais en même temps, il fait pas juste référence au Petit Albert, mais il parle aussi de d'autres grimoires qu'on peut retrouver au Québec. Ça répondait pas exactement à mes questionnements, mais je trouvais quand même que c'était des extraits très intéressants. Bon, on retourne au Petit Albert. Parlons un peu de sa structure maintenant. C'est un peu un ramassis de recettes, de talismans et d'autres fabrications. Il y a quand même un peu d'ordre, mais pas tant. Le livre commence avec des recettes pour réussir en amour, avec sa libido, et ensuite avec des recettes qui ont des utilités un peu plus agricoles. On y retrouve une panoplie de recettes de parfums pour attirer, comme j'ai dit plus tôt, les gnomes, qui sont les gardiens des trésors. Il y a des fabrications de tromperies, comme la fausse mandragore et la tête de Saint-Jean. Ensuite, on retrouve plusieurs sortes de concoctions de chandelles magiques, dont la fameuse main de gloire, ainsi que la façon de se protéger de son influence. Ensuite, on parle d'anneaux magiques et on a quelques recettes pour préserver la santé. Petite confession ici, c'est l'un de mes grimoires préférés. On y retrouve une certaine naïveté qui fait sourire. En gros, on s'ennuie pas en le lisant. Sur ce, on va le parcourir un petit peu. Commençons par une bonne recette pour réussir en amour. Tirez de votre sang un vendredi du printemps. Mettez-le à sécher au four dans un petit pot, avec les deux couillons d'un lièvre et le foie d'une colombe. Réduisez le tout en poudre fine et faites avaler à la personne sur qui vous aurez quelques dessins. Environ la quantité d'une demi-drachme. Si l'effet ne suit pas à la première fois, réitérez jusqu'à 3 fois. Autre pour l'amour. Si le mari trouve que sa femme soit de complexion froide et ne se plaise au déduit, qu'il lui fasse manger les couillons d'oie et le ventre d'un lièvre assaisonné de fines herbes, et de temps en temps des salades où il y a beaucoup de roquettes, de satyrion et de céleri au vinaigre rosa. Fait que dans le fond, c'est plus comme une invitation à faire un petit souper, une petite attention qui peut-être, qui sait, réchauffera le cœur de la dame. Bon, cuisiner des couilles d'oie serait pas la première chose que je ferais, mais à l'époque, paraît-il que c'était un repas comme un autre. Pour nouer l'aiguillette, ayez la verge d'un loup nouvellement tué, étant proche de la portée de celui que vous voudrez lier. Vous l'appellerez par son nom, aussitôt qu'il aura répondu, vous lierez ladite verge du loup avec un lacet de fil blanc. Il fera rendu si impuissant à l'acte de Vénus qu'il ne le serroie pas davantage s'il est toit châtré. Bon, ici, on avait une construction de phrase un peu à l'ancienne. C'est pas toujours évident. Mais bon, ça fait un peu le charme après tout. Mais là, c'est bon, on a parlé de comment nouer l'aiguillette. Mais dans le livre, il y a aussi une façon de contrer l'aiguillonnage de l'aiguillette, hein? Contre le charme de l'aiguillette nouée, nos anciens assurent que l'oiseau que l'on appelle le pivert est un souverain remède contre le sortilège de l'aiguillette nouée. Si on le mange rôti à jeun avec du sel bénit, si on respire la fumée de la dent brûlée d'un homme mort depuis peu, on sera pareillement délivré du charme. Le même effet arrive si l'on met du vif-argent dans un chalumeau de paille d'avoine ou de froment, et que l'on mette celui-ci sous le chevet du lit où se couche celui qui est atteint de ce maléfice. Si l'homme et la femme sont affligés de ce charme, il faut pour être guéri que l'homme pisse à travers l'anneau nuptial. Eh bien! Bon, un chalumeau de paille, en fait, c'est une expression qui veut dire que c'est très fragile et que ça brise facilement. Ça tire son origine d'un instrument de musique primitif qui était fait à partir de paille d'avoine. Et dans ce cas-ci, on parle littéralement de l'instrument de musique. Du moins, c'est ce que je pense. Pour s'enrichir par la pêche des poissons, vous assemblerez une infinité de poissons où vous pourrez commodément les prendre si vous y jetez la composition suivante. Prenez du sang de bœuf, du sang de chèvre, du sang de brebis qui se trouve aux petites entrailles, du thym, de l'origan, de la farine, de la marjolaine, de l'ail, de la lie et du vin et de la graisse ou moelle des mêmes animaux. Vous pilerez tous ces ingrédients ensemble et vous ferez de petites boules que vous jetterez dans l'endroit de la rivière ou de l'étang. Et vous ferez merveille. Ici, j'ai pas beaucoup de misère à croire que ça fonctionne. Ça me rappelle dans ma jeunesse, quand j'allais à la pêche avec mon père. Quand on utilisait des appâts artificiels, on les trempait dans une espèce de petit liquide qui attirait les poissons. J'attendais tout le temps que mon père aille le dos tourné pour vider le contenu de la bouteille dans notre spot de pêche. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très sportif, mais ça fonctionnait quand même assez bien. Pour empêcher que les oiseaux ne gâtent les semailles, en mangeant les graines. Il faut avoir le plus gros crapaud qu'on puisse trouver. On l'enfermera dans un pot de terre neuf avec une chauve-souris et l'on écrira en dedans du couvercle du pot ce mot « Assichek » avec du sang de corbeau. On enterrera ce pot au milieu du champ ensemencé. Il ne faut pas craindre que les oiseaux l'approchent. Quand les graines commenceront à mûrir, il faut ôter ce pot et le jeter loin du champ dans quelques voiries. Bon, qui n'a pas fait ça dans son petit jardin de ville? En fait, ce qu'il nous faudrait ici, c'est plus une formule pour empêcher les écureuils de manger nos tomates. Bon, maintenant, on va parler un peu des chandelles magiques. Assez souvent, les chandelles magiques servent à créer des illusions. C'est le cas dans le petit Albert. Voici la manière de faire un cierge magique, au moyen duquel celui qui le tiendra allumé paraîtra sans tête. Vous prendrez la peau dont un serpent s'est nouvellement dépouillé, de l'orpiment, de la poix grecque, du rupontique, de la cire vierge et du sang d'un âne. Vous broyerez toutes ces choses ensemble, vous les mettrez à bouillir à petit feu durant 3 ou 4 heures. Sans un vieux chaudron plein d'eau de marais, puis les laissant refroidir, vous séparerez la masse de vos drogues avec de l'eau. Vous en composerez le cierge, dont le lumignon sera de plusieurs fils d'un liqueux où un mort aura été enseveli. Quiconque allumera ce cierge en sera éclairé et apparaîtra sans tête. Ici, la formulation est un peu bizarre. Bon. Il y a d'autres fabrications de chandelles, dont entre autres une chandelle qui permet de faire taire les grenouilles, ce qui est quand même assez pratique en camping. Il y en a une autre qui permet aux occupants d'une pièce de prendre l'apparence de grands éléphants ou de chevaux. Donc en gros, rien de mieux que quelques bonnes chandelles magiques pour égayer les soirées. Rien de plus divertissant que de voir Mononcle Gilles faire son coup du monsieur pas de tête en terrifiant les enfants. Bon. Sur ces bons mots, on va passer à un incontournable du petit Albert, la main de gloire. De la main de gloire dont se servent les scélérats voleurs pour entrer dans les maisons de nuit sans empêchement. J'avoue que je n'ai jamais éprouvé le secret de la main de gloire, mais j'ai assisté 3 fois au jugement définitif de certains scélérats qui confessèrent sous la torture s'être servi de la main de gloire dans leur vol qu'ils ont fait. Comme dans leur interrogatoire, on leur demanda ce que c'était et quel était son usage. Ils répondirent premièrement que l'usage de la main de gloire était de stupéfier et de rendre immobile, en sorte qu'ils ne peuvent plus bouger comme s'ils étaient morts. Secondement, que c'était la main d'un pendu. Et troisièmement, qu'il fallait la préparer de la manière suivante. Mettre du ketchup et de la moutarde dans un petit ziploc. Déshydrater et mettre en poudre un Joe Louis que vous mélangerez à la mixture.
Oh, Chris.
Non, c'est pas ça. Mauvaise page. Il me semblait aussi. On prend la main droite ou la gauche d'un pendu exposé sur le chemin. On l'enveloppe dans un morceau de drap mortuaire dans lequel on le presse bien pour faire rendre le peu de sang qui paroît être resté. Puis on la met dans un vase de terre avec du zima, du salpêtre, du sel et du poivre long, le tout bien pulvérisé. On la laisse durant 15 jours dans un pot. Puis, l'ayant tirée, on l'expose au grand soleil de la canicule jusqu'à ce qu'elle soit devenue bien sèche. Si le soleil ne suffit pas, on la met dans un four qui soit chauffé avec de la fougère et de la verveine. Puis l'on compose une espèce de chandelle avec de la graisse du pendu, ainsi que de la cire vierge et du sésame de Laponie. Et l'on se sert de cette main de gloire comme d'un chandelier. Dans tous les lieux où on va avec ce funeste instrument, ceux qui y sont demeurent immobiles. Et sur ce qu'on leur demanda, il n'y avait point de remède pour se garantir de ce prestige. Ensuite, on nous explique que finalement, il y a une façon de contrer le prestige de la main de gloire. Et le procédé est assez simple. Il faut frotter les portes de la maison avec un onguent composé de fiel de chat noir, de graisse de poule blanche et de sang de chouette. Et la mixture doit avoir été confectionnée en temps de canicule. Fait qu'en gros, la préparation de la main de gloire, c'est vraiment une activité estivale. Oubliez le soleil et les plages de sable chaud et mettez-vous à la confection de petites chandelles. Un autre élément important dans le livre, la mention des mandragores. Clairement, ça a été popularisé par Harry Potter récemment, mais c'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité pour des propriétés thérapeutiques. On lui a attribué des pouvoirs magiques en raison de sa forme. La racine a un peu la forme d'un corps humain. Dans le livre, je trouve personnellement que c'est quand même un peu ambigu. Qu'est-ce que c'est au juste une mandragore? Dans un exemple, on a la fameuse racine, mais dans un autre, on a une petite poule à tête humaine. Il y a de quoi être confus. En même temps, mes connaissances sur les mandragores étaient assez limitées. Il y a une mandragore d'une autre espèce, que l'on prétend être des farfadets, lutins ou esprits familiers, qui servent à plusieurs usages. Quelques-uns sont visibles sous la forme d'animaux, d'autres invisibles. Je me suis trouvé dans un château où il y en avait un qui, depuis 6 ans, avait pris soin de gouverner une horloge et d'étriller les chevaux. Il s'acquittait de ces deux choses avec l'exactitude que l'on pouvait souhaiter. Je fus curieux un matin de voir ce manège. Mon étonnement fut grand de voir courir l'étrille sous la croupe du cheval, et cela sans être conduit par aucune main visible. Le palefrenier me dit qu'il s'était attiré ce farfadet à son service en prenant une petite poule noire qu'il avait saignée dans un grand chemin croisé, et que du sang de la poule, il avait écrit sur un petit morceau de papier Berry de Ferrat, ma besogne pendant 20 ans, et je le récompenserai. Puis qu'il avait enterré la poule à un pied de profondeur. Le même jour, le farfadet avait pris soin de l'horloge et des chevaux, et que de temps en temps, il faisait des trouvailles qui lui valaient quelque chose. Bon, vous en conviendrez, on est quand même assez loin du petit bout de gingembre à forme humaine. Un peu plus loin dans le texte, il y a une autre fabrication qui m'a fait bien rire, et que voici. Il m'étonna bien en me disant de quelle manière il avait eu cette mandragore. J'ai suivi, me dit-il, ce que le célèbre Avicenne a écrit sur le sujet, qu'il faut avoir un gros œuf de poule noire, le percer, en faire sortir un peu la glaire, c'est-à-dire environ la grosseur d'une fève, et, l'ayant rempli de semences humaines, on bouchera le pertuis bien subtilement, en y collant un petit morceau de parchemin humecté. Puis on le met à couver au premier jour de la lune de Mars, dans une heureuse constellation de Mercure et de Jupiter. Et au bout du temps convenable, l'œuf viendra à éclore. Il en sort un petit monstre, comme vous le voyez. Puis là, on a une belle illustration de ce qui semble être un petit pigeon avec une tête humaine. On le nourrit dans une chambre secrète avec des graines d'aspic et des vers de terre. Celui que vous voyez n'a vécu que l'espace de 5 mois. Pour le conserver après sa mort, on le met dans un bocal de verre fort avec de l'esprit de vin, bien bouché. Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, j'ai pas traité tout le livre en entier, et pour les intéressés, il est quand même assez facile de trouver des copies PDF sur Internet. Il est aussi possible de le commander en format physique sur Amazon. Sur le Patreon des Berceuses occultes, j'ai mis deux versions numériques. Il y a l'édition de 1752 et finalement, il y a la version de 1868 qui est en fait une version augmentée et corrigée du Petit Albert. Personnellement, je préfère la version de 1752. Mais je tenais à mettre les deux parce que la version de 1868, il y a des segments qui ont été ajoutés, d'autres qui ont été retirés, puis dans l'ensemble, c'est juste pas le même livre. Mais ça permet de faire la comparaison entre les deux. Je vous invite à aller vous inscrire à mon Instagram ou à ma page YouTube. La semaine prochaine, on se penche sur le grimoire La Poule Noire. Un rendez-vous à ne pas manquer.